Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à toutes et à tous. C'est d'Europe et encore d'Europe dont nous allons parler aujourd'hui dans Éclairage. Dimanche dernier, 55% des électeurs français ont rejeté le traité constitutionnel. Un résultat certes embarrassant pour la France, mais qui a au moins eu le mérite de faire renaître le débat politique dans notre pays. La campagne pour le référendum a aussi montré à quel point les Français avaient en général une méconnaissance de la réalité européenne, méconnaissance d'autant plus insupportable que l'Europe, via sa constitution, s'apprêtait à relever le défi de la mondialisation économique, alors que la situation de notre pays reste très préoccupante. D'ailleurs, Jacques Chirac vient d'annoncer à l'instant le remaniement du gouvernement avec Dominique de Villepin, qui est nommé Premier ministre. Pourquoi les électeurs français ont-ils rejeté cette constitution? Ne se sont-ils pas trompés de scrutin? Le non prive-t-il notre pays de l'élan économique mondial? Et ce choix pèsera-t-il sur la politique de notre pays à Bruxelles, comme l'a répété Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères? Autant de questions que je vous propose d'aborder dans cette émission en compagnie de Raymond Barre. Monsieur le Premier ministre, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour madame, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, nous sommes ravis en tout cas de vous accueillir sur l'antenne de Canal Académie, vous qui êtes un des partisans les plus actifs de l'Union économique et monétaire. Alors la question n'était évidemment pas prévue, mais entre-temps, Jacques Chirac a remanié le gouvernement. Il vient donc d'annoncer, comme je le disais dans l'introduction, la nomination de Dominique de Villepin comme Premier ministre, et celle de Nicolas Sarkozy à l'intérieur. Or, les Français avaient également fait savoir qu'un changement de gouvernement ne suffirait pas à leur redonner confiance. La France est donc dans une situation pour le moins particulière, Raymond Barre.
Madame, qu'il y ait eu un remaniement du gouvernement, cela n'est pas étonnant. Après l'échec enregistré par le vote au moment du vote référendaire, il était normal que le Premier ministre démissionne. Et qu'un nouveau gouvernement soit mis en place, je n'avais pas la dernière nouvelle que vous venez me donner, à savoir que non seulement M. Villepin devient Premier ministre, voilà, mais que M. Sarkozy prend un grand ministère de l'Intérieur.
Oui, donc il y revient, puisqu'il y était déjà dans le gouvernement Raffarin.
Il y est revenu, compte tenu de tout ce que je lis dans la presse et les commentaires de tout genre, c'est une bonne chose que ces deux hommes soient ensemble.
Bien. Mais est-ce que c'est une chose suffisante?
J'y viens. C'était nécessaire. Est-ce suffisant? Non. Car il faut bien voir que la crise que traverse la France est à l'heure actuelle très profonde. Il y a une crise morale qui vient, semble-t-il, du fait que les Français, au fond d'eux-mêmes, n'ont pas tout à fait accepté un élargissement qui leur apparaît sans limite. Les Français ont vécu avec cette notion d'une communauté, puis d'une Union européenne, qui était une sorte de cocon. Cela n'existe plus maintenant. Et les Français sont inquiets, on l'a bien vu. D'ailleurs, on a entendu les gens rappeler, comme au bon vieux temps, la préférence communautaire. Une crise économique, c'est évident, la croissance est modeste, le chômage est croissant, les finances publiques sont très détériorées, la dette publique s'accroît, et les Français savent bien que les actions à mener doivent être sérieuses dans ce domaine, car il n'y aura pas de reprise et de croissance durable de l'économie française sans un assainissement des finances publiques. Or, la reprise d'une croissance saine et durable en France est la condition du rétablissement de la situation de l'emploi qui souhaite également un rétablissement durable. Et il y a une troisième crise, je m'excuse d'être un peu long, mais il faut l'analyser, il y a une troisième crise qui est celle de l'autorité de l'État. Les Français ont toujours été habitués à un État qui arbitre et à un État qui dirige. Or, au cours de ces dernières années, les Français ont vu le gouvernement reculer sur des sujets qui suscitaient des réactions soit dans l'opinion générale, soit des réactions de corporatisme, soit des réactions individuelles défendant leurs intérêts particuliers. Les Français ont le sentiment que l'intérêt collectif n'est plus respecté. Et chacun se dit, sous l'effet d'un individualisme de plus en plus grand, que chacun doit tirer son épingle du jeu. Alors c'est ça là, également un fort aspect de cette crise. Et l'explosion des mécontentements, une coalition de mécontentements, s'est manifestée au moment du vote référendaire.
Alors certains chefs des partis politiques, au lendemain du scrutin référendaire, ont déjà mis en avant la possibilité d'élections législatives anticipées. Manifestement, ça n'est pas l'option retenue par Jacques Chirac pour l'instant. Est-ce que ça vous paraît une alternative souhaitable, Raymond Barre ?
Madame, je suis un homme qui est arrivé aux affaires politiques, publiques et politiques, au début de la Ve République, et je suis très marqué par ce qui est la caractéristique de la Ve République, c'est-à-dire le rôle du chef de l'État. C'est à lui de fixer les orientations à long terme. C'est à lui de déterminer quelles sont les actions politiques qui sont souhaitables. Le président de la République a choisi de remanier le gouvernement. Je pense que des élections législatives auraient très bien pu être réalisées. Cela était concevable. Monsieur Schröder, pour d'autres raisons, en Allemagne, a décidé d'anticiper les élections législatives.
Oui, tout à fait, oui.
Mais à partir du moment où le chef de l'État, qui a une vue d'ensemble de la situation, décide de nommer un nouveau gouvernement et de lui confier la tâche de remise en ordre qui est nécessaire, je crois qu'il n'y a pas d'autre commentaire à faire. Je n'en ferai qu'un, ne soyons pas injustes à l'égard de Monsieur Raffarin, qui a été un Premier ministre courageux et qui a fait tout ce qu'il a pu, même s'il n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu.
Alors 55% des Français, comme je disais tout à l'heure, ont rejeté la Constitution. Plus de la moitié l'ont fait pour des raisons économiques, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment expliquer que notre pays soit dans une telle situation ?
Madame, à la base de tout cela, il y a le problème du chômage.
10% en France.
Bon, depuis que le chômage existe, on fait une distinction entre le chômage conjoncturel, qui est lié au fait que la croissance de l'économie ou la récession de l'économie peuvent entraîner des modifications dans le nombre de personnes employées, et le chômage structurel. Le chômage structurel ne dépend pas des variations de l'activité économique, il dépend de facteurs structurels, c'est-à-dire des conditions de l'activité économique. Le problème français, c'est que l'on n'a jamais voulu traiter les problèmes relatifs au chômage structurel. Ou plus exactement, on a pensé que les mesures qu'on mettrait en place pour le chômage conjoncturel rejailliraient sur le chômage structurel. Cela n'a pas été le cas. Alors, on a fait ce qui est une tradition française, des emplois financés par la puissance publique, comme au temps de la Révolution. Et nous avons eu des emplois jeunes, des emplois pour les seniors, je pourrais les passer en revue. Mon sentiment est que nous ne nous débarrasserons pas du problème du chômage si nous ne révisons pas totalement notre politique de l'emploi. Tous les observateurs le disent, tous les commentateurs le reconnaissent. Le drame en France, c'est que l'on a eu sur l'emploi une politique malthusienne. On a défendu les emplois existants. On a pensé qu'en faisant sortir les uns ou les autres, on maintiendrait l'activité de ceux qui étaient déjà pourvus d'un emploi. Donc je crois, et j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, la première tâche qui s'impose à l'heure actuelle, c'est d'engager une vigoureuse politique de l'emploi qui remette à plat toutes les mesures qui ont été prises jusqu'ici, qui en fassent un tri, parce que souvent leurs effets sont contradictoires ou négatifs. Et puis ensuite, d'adopter les vraies mesures qui permettront de voir le chômage structurel se réduire.
Certains partisans du oui pensent que l'élan économique mondial aurait pu, par exemple, aider la France, si nous avions ratifié le texte, à sortir justement de son impasse économique. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Si le chômage existe en France à un niveau plus élevé que dans d'autres pays, c'est que notre économie n'est pas créatrice d'emplois. Elle n'est pas créatrice d'emplois parce que nous n'avons pas procédé au renouvellement industriel qui se sont produits ailleurs, notamment en matière d'investissement de haute technologie. Nous avons des investissements qui sont plutôt modestes. Et enfin, quand vous examinez notre commerce extérieur, vous constatez que nos entreprises sont mal positionnées, soit du fait de leur nature, des entreprises anciennes, soit du fait de leur non-pénétration sur les marchés qui sont à l'heure actuelle en expansion. C'est là un ensemble de problèmes qui concernent la capacité de développement de l'économie française. La France a de grands atouts, la productivité de ses travailleurs, des entreprises qui sont des fleurons de l'activité économique. Mais tout cela ne suffit pas à donner à l'économie le mouvement qui serait nécessaire pour que l'on puisse envisager une solution durable des problèmes qui se posent.
Raymond Barre, je vous propose de marquer une courte pause. Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Alors Raymond Barre, nous parlions à l'instant des conséquences immédiates du non au référendum constitutionnel et notamment du remaniement que Jacques Chirac vient de faire pratiquement à l'instant. Vous parliez également de la situation de la France et dans l'Europe et dans le monde. Mais si l'Europe s'est dotée d'une constitution, c'était indéniablement pour devenir un acteur privilégié de la mondialisation économique. Mais cette course à la compétitivité a inquiété les Français. On nous a présenté le grand élargissement comme une chance de dynamiser l'Europe économique. Pourtant, l'expérience montre que de nombreuses entreprises françaises, lorsqu'elles se délocalisent, le font plutôt hors de l'Union européenne. Comme si finalement, d'une certaine manière, cet élargissement à l'Est n'était déjà plus attractif. Qu'en pensez-vous ?
Vous abordez ici le problème des délocalisations, qui est en fait le problème de l'orientation des décisions des chefs d'entreprise. Pourquoi une entreprise se délocalise-t-elle ? Elle ne se déplace, elle ne se dépasse pas globalement d'un endroit dans un autre, d'une partie de la France à l'étranger. L'entreprise, si elle a à faire des investissements supplémentaires, le fait à l'étranger parce qu'elle veut conquérir de nouveaux marchés. Ou elle va dans des lieux où les conditions de production sont plus faciles, notamment en matière de charges et de fiscalité. Et où enfin, il y a une flexibilité du marché du travail qui n'existe pas en France. Alors, il ne faut pas faire le procès des délocalisations et des décisions prises par les chefs d'entreprise. Il faut remédier à ces facteurs qui sont à l'origine d'une orientation de nos entreprises vers l'extérieur. Qu'il s'agisse des nouveaux membres de l'Union européenne, c'est très compréhensible, ou qu'il s'agisse d'actions qui sont menées sur les nouveaux marchés, je pense à la Chine et à l'Inde.
Mais pourtant, les délocalisations ont concerné, on peut dire, plutôt l'industrie en Europe. On sait que l'industrie européenne a quand même subi de plein fouet ces délocalisations. Est-ce que l'industrie va-t-elle encore décliner? Va-t-elle continuer à décliner? Ou au contraire, l'industrie européenne a beaucoup d'avenir devant elle?
C'est une question de volonté. L'industrie européenne a de l'avenir devant elle. Pensez à l'industrie allemande, à l'industrie française, à l'industrie italienne, même à ces industries qui sont en train d'apparaître dans les nouveaux membres. Et nous avons des atouts en Europe. Nous avons des ressources en hommes, en intelligence, en travailleurs. Mais encore faut-il s'adapter. Et le problème de l'économie européenne à l'heure actuelle est que son adaptation est tardive aux nouvelles conditions d'activité économique. Le chancelier Schröder l'avait compris, qui avait fait adopter des programmes concernant l'emploi, la sécurité sociale, programmes qui ont été mal acceptés et qui lui ont valu des pertes dans les élections. Mais il a décidé de maintenir son programme et de soumettre aux Allemands le choix, où on fait cela ou on fait autre chose. Tout le monde sait que si c'est Mme Merkel qui gagne les élections, les mesures prises par M. Schröder seront intensifiées, de même qu'il serait en France. Tout à fait irréaliste de créer l'illusion que nous pouvons, par quelques mesurettes, modifier la situation de notre pays. C'est une politique d'ensemble qui doit être menée. Elle va de l'éducation à la recherche, à l'investissement, au développement régional, à la mise en œuvre des pôles de compétitivité dont il est question. Voilà ce qui est nécessaire. Mais mon sentiment est que sur les 2 ans à venir, avant l'élection présidentielle, on ne peut pas se lancer dans des programmes ambitieux. Je crois donc qu'il faut se concentrer sur la politique de l'emploi, dans tout ce qui peut être fait immédiatement. Et puis, quand nous aurons le terrain déblayé au lendemain de l'élection présidentielle et des élections législatives qui suivront, mettre en place ce programme global dont nous avons besoin.
Alors, vous parliez à l'instant de l'industrie, mais c'est vrai que le marché des transports, lui, s'est ouvert à la concurrence en Europe. On sait aussi que le marché de l'énergie, gaz, électricité, l'est également. Forcément, ces entreprises ont dû s'adapter à la logique mondiale. Et finalement, en France, cette décision, vous le savez autant que moi, a provoqué quand même une vraie levée de bouclier chez les employés d'EDF, GDF. Et les Français craignent un peu que finalement, les entreprises de services publics n'existent plus à terme. Est-ce que c'est une réalité?
C'est un argument syndical pour défendre des situations acquises. On a ouvert le capital de certaines entreprises, par exemple France Télécom. On annonce que le capital de Gaz de France sera ouvert, mais l'État conservant la majorité ou le contrôle de l'entreprise. En ce qui concerne l'EDF, il y a une crainte révérentielle à l'égard des syndicats d'EDF qui sont les mieux lotis de tous les syndicats en France. Si nous continuons de cette manière, nous ne sortirons jamais de nos problèmes. Et que verrons-nous? Nous verrons des entreprises étrangères venir effectuer du transport. Dans d'aussi bonnes conditions que la SNCF, et sans doute sont les grèves à répétition. Le service du consommateur sera donc assuré. Si les services publics veulent maintenir la défense de l'intérêt général, tant mieux. Je n'y vois pour ma part aucun inconvénient. Encore convient-il qu'elles modifient leurs modalités de gestion, car elles ne peuvent pas continuer sur la même ligne que celle qu'elles suivent à l'heure actuelle.
Tout à l'heure, Raymond Barre, vous soulignez l'incapacité de la France à créer des emplois. On sait que l'innovation a joué un rôle moteur dans le dynamisme économique européen. L'Europe aurait pu justement inciter la France à innover, aurait pu l'aider à aller dans ce sens. Est-ce que vous y croyez?
L'innovation n'a pas tellement joué un rôle en Europe. Et quand vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis, vous voyez une explosion de ce qu'on appelle les technologies de l'information. Mm-hmm. L'Allemagne, la France, les autres pays européens sont en retard dans ce domaine. Et par conséquent, il est indispensable que les pays européens mettent en œuvre des politiques qui favorisent l'innovation et le développement de la compétitivité. C'était l'agenda de Lisbonne. Mais cela n'a jamais été pris en considération. La Commission nouvelle souhaite le faire. Très bien, mais il faut mettre sur la table des objectifs précis et il faut rechercher les moyens financiers et humains de la mise en œuvre des programmes tendant à la réalisation de ces objectifs.
Alors justement, vous parliez du fait que nous soyons très en retard par rapport au marché américain. Et relever le défi de la mondialisation, c'est aussi donner à l'Europe les moyens de se positionner face à ce marché américain. Tout le monde sait tout de même que les États-Unis sont plutôt protectionnistes. Comment l'Union européenne peut-elle contourner cette difficulté, Raymond Barr ?
Madame, les États-Unis ne sont pas aussi protectionnistes qu'on le dit.
Alors ?
Et certes, il y a des domaines où les États-Unis utilisent des procédés un peu camouflés pour aider leurs entreprises, voyez Boeing. Mais nous n'avons rien à apprendre d'eux, puisque nous faisons nous-mêmes, en matière de subvention à l'industrie aéronautique, des actions semblables. Non, je crois qu'il faut bien voir que les États-Unis ont une capacité de développement technologique, d'innovation, d'investissement considérable. Que le marché américain est très vaste, offre des occasions d'investissement constantes. Que le marché du travail est un marché très flexible et que les entreprises américaines peuvent facilement s'adapter sur le plan des effectifs aux variations de la conjoncture. Et qu'enfin, sur le plan des financements, le marché américain offre des possibilités considérables. Pourquoi les entreprises françaises ou étrangères ou européennes vont-elles investir aux États-Unis ? Parce qu'elles ont le marché et parce qu'elles trouvent l'argent qui est nécessaire pour le faire. Et pourquoi il y a tellement de capitaux qui vont aux États-Unis ? Parce que la liberté des transactions financières aux États-Unis fait que l'argent qui y entre peut à tout moment en sortir. Comme on disait de Londres à la fin du 19e siècle, tout ce qui est liquide va à Londres et tout ce qui sort de Londres est liquide.
Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs pour l'Europe.
Ce n'est pas le cas pour l'Europe puisque nous sommes en retard en ce qui concerne la réalisation du grand marché des capitaux dont nous avons besoin. L'euro va forcer en quelque sorte, contribuer à réaliser des progrès dans ce domaine, mais enfin il faut les faire.
On se retrouve dans quelques minutes.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie.
Canal Académie.
Alors Raymond Barr, à l'instant nous parlions de l'Europe et de l'Europe économique. L'euro, vous le citiez, a indéniablement stimulé le marché unique, mais il n'est pas sûr que la politique menée par la BCE ait stimulé les exportations européennes. Pourquoi la BCE, pendant près de 2 ans, a-t-elle maintenu un taux de change beaucoup plus important pour l'euro que pour le dollar ? Est-ce que c'est ainsi qu'on stimule un marché européen ? Racontez-nous.
Madame, n'utilisez pas le langage que vous venez d'employer. Pourquoi ? Nous sommes en période, en situation internationale de change flottant. Selon les circonstances, selon les humeurs psychologiques, selon les anticipations, Le dollar peut monter ou baisser. Et je dirais qu'il y a, en contrepartie, une baisse de l'euro si le dollar monte, ou une hausse de l'euro si le dollar baisse. Nous avons eu une période de baisse du dollar. L'euro était plus fort que le dollar. Entre nous, cela n'a pas tellement gêné les exportations. Regardez les exportations allemandes et le bond qu'elles ont fait depuis 2 ans.
En tout cas, ça ne nous a pas avantagés.
Nous, Français, ça ne nous avantage pas pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure en matière de commerce extérieur. Et parce que nous avons une vieille tradition, madame, qui se résume en 2 termes, protégeons, dévaluons. Et j'entends dire qu'il faut dévaluer l'euro, mais on n'y peut rien. La Banque Centrale Européenne ne peut pas agir sur le taux de l'euro. Tout dépend du marché international.
Oui, mais elle le
fixe. La Banque Européenne, elle peut utiliser les taux d'intérêt. Mais nous avons en Europe les taux d'intérêt historiquement les plus bas. Si on veut les baisser encore, nous risquons de déclencher un phénomène inflationniste dû notamment à un accroissement de l'endettement privé. La bulle de l'endettement privé, qui réagit par exemple sur la bulle de l'immobilier. Alors, ne parlons pas de ces problèmes monétaires avec, la tradition française. Et soyons sérieux, la Banque Centrale est là pour assurer la stabilité de l'euro et la stabilité des prix. Laissons-la faire son métier.
Mais si elle n'a pas stimulé les exportations européennes, au moins a-t-elle fait venir ou a-t-elle facilité les investissements dans l'Europe?
Tant mieux, madame.
Non, c'est une question que
oui.
je vous pose.
Non, mais je veux dire, si les investissements viennent en Europe, c'est une chose excellente.
Et c'est mais là ce fut le cas ou pas?
C'est là.
Avec
il y a
cette
beaucoup
politique.
D'investissements qui viennent en Europe.
D'accord.
Et croyez-moi, nous avions tout à l'heure parlé de la délocalisation. Mais nous sommes choqués quand nos entreprises tendent à se délocaliser, mais nous acceptons volontiers les entreprises étrangères qui se délocalisent chez nous. C'est cela, le mouvement qui se produit sur le marché international des biens, des services et des capitaux.
Alors, les Français ont mal vécu le passage à l'euro. Beaucoup pensent même que la monnaie unique a diminué leur pouvoir d'achat. Est-ce que cela vous semble réel ou pas, Raymond Barre?
Je n'ai pas là-dessus d'indication très précise. Bien sûr, quand je vais faire mes courses, les commerçants me disent « Ah, l'euro, ça fait monter les prix ». Tant mieux pour eux, d'ailleurs.
Mmh. Oui, pour eux, mais pas pour les consommateurs.
Pas pour le consommateur.
Voilà.
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse là d'une réaction fondée. Je n'ai pas vu d'études sur ce sujet. Mais il est certain que le passage des monnaies nationales à l'euro a dû entraîner un certain nombre d'ajustements. Mais de là à dire que l'euro est une catastrophe, voyons plutôt les avantages de l'euro, qui sont évidents. Si nous n'avions pas eu l'euro dans la période économique difficile que nous venons de traverser, certaines des monnaies anciennes auraient dévalué plusieurs fois, y compris le franc.
Alors, Jean-Dominique Giuliani, que vous connaissez, qui est président de la Fondation Robert Schuman, avait présenté le grand élargissement à l'Est comme l'unité de notre continent. Je crois que vous vous en rappelez. Les Français n'ont pas été consultés sur cette question. Pour quelle raison, à votre avis, Raymond Barre?
Madame, vous avez constaté qu'il n'y a pas eu de réaction en ce qui concerne l'élargissement au moment où il s'est réalisé. Pourquoi? Parce que les Français se sont bien rendus compte que c'était une situation à laquelle l'Europe ne pouvait pas échapper. Nous avions, après la chute du rideau de fer, 10 pays qui avaient été sous contrôle soviétique et à qui nous avions promis, pendant qu'ils étaient sous tutelle, qu'on les accueillerait un jour. Ils n'ont eu qu'une idée, une fois qu'ils ont été libérés, adhérer à l'OTAN pour avoir leur sécurité et entrer dans la communauté européenne pour bénéficier de l'essor de l'Union européenne. C'est ça, les Français ne pouvaient pas ignorer cela. C'est un phénomène politique lié à l'histoire.
Oui, mais curieusement, on les consulte sur le traité constitutionnel. Oui. En revanche, on ne les consulte pas sur, une étape fondamentale de la construction européenne. Il y a quand même quelque chose de contradictoire dans tout ça.
Oui, alors là, ce n'est pas à moi de répondre sur le fait que le gouvernement a décidé de ne pas consulter sur l'élargissement, sur les élargissements. Quand on a fait le traité de Maastricht,
il y a
eu une consultation référendaire.
Pour les traités, oui.
Mais pour les traités, c'était compréhensible. En ce qui concerne les phénomènes d'élargissement, il était tellement évident qu'on ne pouvait pas y échapper que je comprends très bien que l'on n'ait pas eu besoin de consulter les gens. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas eu d'opposition qui ait été manifestée à ce moment. Maintenant, on entend parler de cela. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les Français sont inquiets parce que le cocon qu'ils considéraient être l'Union européenne, la communauté d'abord, puis l'Union européenne, est en train de devenir moins englobante, moins protecteur qu'il n'était auparavant.
Mais justement, si Bruxelles aussi avait pris le soin de associer les citoyens européens aux grandes étapes de l'histoire européenne, peut-être que d'une certaine manière, elle aurait permis une vraie conscience de l'Europe. Or, les Français ont découvert l'Europe à l'occasion de ce traité constitutionnel. On leur donne un droit d'initiative populaire qui est un droit qui me semble pas être une concession très, très importante. Et est-ce que Bruxelles ne devrait pas aussi faire en sorte de faire que les citoyens puissent être plus concernés par la réalité européenne, ne serait-ce que dans ces institutions ?
Ce n'est pas l'affaire de Bruxelles. C'est d'abord l'affaire des gouvernements nationaux. En France, nous n'avons considéré la communauté que pour les avantages qu'elle apportait. La disparition du protectionnisme, la politique à école commune, qui a engagé des montants financiers considérables. Le tarif extérieur commun, qui permettait à l'Europe, à la communauté, de défendre les intérêts de ses entreprises, de ses productions. Et enfin, les fonds structurels, qui ont joué un rôle important dans des développements régionaux.
Particulièrement
et n'oublions pas, pour nous Français, l'action de l'Union européenne dans les départements d'outre-mer. Mais tout cela se faisait. Mais les Français n'étaient pas au courant. Il n'y a que les agriculteurs qui touchaient leur argent.
Tout à fait. C'est ce que
qui en étaient très heureux et qui maintenant ont peur qu'il y ait moins d'argent. Ils en ont suffisamment gagné pour comprendre que la manne ne continuerait pas à se déverser pour l'éternité.
D'ailleurs, je crois que la France capte 22% des dépenses communautaires de la PAC. C'est énorme.
Ah, tout à fait.
Oui, c'est tout à fait
tout
énorme.
Tout à fait. Non, il faut bien comprendre que nous avons eu une politique européenne qui n'a pas été expliquée point par point, étape par étape.
C'est indéniable, oui.
Si bien que les Français se sont trouvés devant un traité qui supposait connu, dans le détail, tout ce qui avait été fait. Mmh. Et là, il y a une faute du gouvernement, du pouvoir en général. C'est l'an dernier que le référendum a été annoncé, sans plus. C'est au début de cette année qu'on a confirmé le référendum sans dire la date à laquelle il aurait lieu. Il y a simplement 4 mois que l'on a dit que le référendum aurait lieu au mois de mai, à la fin de mai. Et la campagne pour le référendum ne s'est ouverte, au fond, que depuis 3 mois. Et cela a été variable selon les partisans de l'Europe. De sorte que l'on comprend très bien que les Français se sont trouvés, à un certain moment, complètement dans l'incompréhension de ce qui allait se faire.
Alors, certes, le traité est loin d'être parfait, mais il avait quand même le mérite, Raymond Barre, de stabiliser les institutions européennes. Et ça, je trouve qu'on ne l'a pas assez avant, à commencer par exemple par le recours à la majorité qualifiée.
Mais madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Toutes les fois que j'ai eu, moi je suis retiré de la scène politique, mais j'ai eu quelques occasions de m'exprimer. J'ai toujours dit que ce traité avait pour but, à un moment où nous passions de 15 à 25, d'assurer la cohésion de l'Union européenne, d'assurer un fonctionnement équilibré par des institutions adaptées, et qu'il fallait retenir comme mesures essentielles le président de l'Union élu pour 2 ans et demi et qui peut être renouvelable, le ministre des Affaires étrangères qui est en même temps vice-président de la Commission, et en troisième lieu, le vote à la majorité. Certes, le vote à la majorité n'a pas été généralisé, mais il a été étendu à un certain nombre de domaines. Pour le reste, le vote à l'unanimité a été maintenu, mais là, tous les gouvernements ont été d'accord pour ne pas, exprimer eux-mêmes leur vue, mais laisser les Anglais le faire.
Canal Académie.
Thank you.
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Raymond Barre, nous parlions à l'instant des avantages que donnait en fait ce traité constitutionnel. Et parmi eux, il y avait également un renforcement en fait du pouvoir du Parlement sur la Commission européenne. Et ça, effectivement, on l'a peu mis en avant. Et
c'était un progrès démocratique important. La définition, les règles permettant de nommer le président de la Commission, les pouvoirs supplémentaires donnés au Parlement et les liens établis entre le Parlement européen et les parlements nationaux.
Et oui, ça c'était une manière justement, effectivement, pour les Français de se sentir peut-être davantage concernés aussi par la question
politique
européenne.
J'ai vécu comme Premier ministre un phénomène très amusant. Quand j'ai fait voter l'élection du Parlement européen au suffrage universel, toute l'opposition, RPR notamment, ne cessait de souligner que c'était tout à fait inadmissible que les textes ne soient pas connus du gouvernement français. Il s'agissait des directives. J'ai créé une délégation pour suivre les affaires européennes et notamment étudier les directives. Il y avait très peu de participants à cette délégation. Si bien qu'au moment du traité de Maastricht, on a cru nécessaire de la rétablir et d'en augmenter la force. Vous avez entendu les gens dire qu'ils n'étaient pas au courant des directives. Alors qu'en réalité, toute directive passe devant le Parlement national, qui peut émettre toutes les critiques qu'il souhaite.
Alors justement, si le traité ne passe pas, nous revenons donc au statut du traité de Nice.
Oui, exactement. Et au traité antérieur.
Et antérieur, donc Amsterdam.
Tout.
Tous les traités. Ça veut dire que le principe d'unanimité est maintenu. Ça veut dire que la majorité qualifiée, c'est terminé.
Il y a, dans les traités précédents, quelques domaines dans lesquels il y a un vote à la majorité. Ce qu'apportait le traité constitutionnel, c'est une extension du vote à la majorité. Mais l'Union européenne peut, en dépit du nom français, très bien fonctionner sur la base du traité de Nice et des traités antérieurs. La Commission fait des propositions au Conseil des ministres, l'Assemblée examine ces propositions et donne son avis, positif ou négatif. Le Conseil des ministres décide. Cette procédure, ce qu'on appelle la méthode communautaire, est toujours en application.
Donc nous avons peut-être effectivement, oublié que c'était l'occasion de stabiliser les choses
et puis
de la faire davantage
les progrès,
avancer.
Les progrès dans le sens d'une plus grande cohésion, d'une meilleure coordination des actions. Mais le fait est que le nom français n'a pas fait disparaître l'Union européenne. Le nom français empêche, enfin, pour le moment, d'adopter certaines mesures qui étaient dans le traité, et pour le reste, l'Europe va continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Ça rappellera d'ailleurs aux Français qu'ils doivent être moins arrogants qu'ils le sont d'habitude.
Alors par contre, avec ou sans constitution, la composition de la Commission européenne va changer, parce que ça pose aussi des problèmes. Alors expliquez-nous un petit peu dans quel sens, Raymond Barre.
Et moi j'ai connu une commission à 14, quand je suis entré à Bruxelles. 3 ans après, la commission a été ramenée à 9. Et tout le monde a constaté que c'était un considérable progrès. Et puis au moment du traité de Nice, le principe a été posé que chaque État membre aurait un commissaire, ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais dans le traité constitutionnel, il était prévu que l'on ramène le nombre des commissaires à 15, si mes souvenirs sont exacts, avec une rotation pour 5 postes de commissaires. C'était un progrès. Vous ne pouvez pas faire de la commission un parlement. Ce n'est pas l'esprit de l'institution qu'avait créé Jean Monnet.
Alors, le traité constitutionnel doit être ratifié par les 25 avant octobre 2006. C'est assez proche. Les partisans du non en France ont pensé que le texte serait modifié. Denis McShane, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'ancien ministre anglais, alors je le dis pour les auditeurs, aux affaires européennes, a estimé que le calendrier de la ratification était mort. Qu'en pensez-vous, Raymond Barre?
Mais pas du tout. Les autres pays prennent acte de la décision française. Ils ont engagé des procédures de ratification. On verra bien quel sera le résultat de ces procédures. Ce qui est dit dans le traité, c'est qu'en 2006, le Conseil européen examinera la situation d'ensemble et les cas particuliers et avisera sur ce que l'on peut faire.
Mais il faut qu'il y ait 4/5, je crois, des États membres qui ratifient le texte,
oui,
au moins.
Il faut les 4/5 des États membres qui aient ratifié. Mais vous savez comment ça s'est passé dans d'autres cas.
Oui.
On a cherché.
Pour l'Irlande, vous faites allusion à l'Irlande.
On a cherché les procédés par lesquels on pouvait apaiser les opposants sans rien changer au texte.
Ah oui, le Danemark aussi, je crois,
Bien sûr. Le Danemark, on l'a laissé en dehors de l'euro.
Ah oui.
D'ailleurs, on envisage tout cela, mais on oublie que depuis les traités d'adhésion de la Grande-Bretagne, tous les traités qui ont suivi, la Grande-Bretagne a un pied dedans et un pied dehors.
Oui, alors justement, il n'y a pas un risque aussi pour l'Europe, au-delà de l'élargissement, d'une sorte de scission un peu interne, parce que l'Angleterre va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er juillet. On sait qu'ils sont contre le traité constitutionnel, on sait aussi qu'ils n'ont pas adhéré à l'euro. Est-ce que ce n'est pas un peu une Europe à la carte, parfois, également, Raymond Barre?
Non, c'est une Europe qui a toujours été pleine de mansuétude à l'égard de la Grande-Bretagne. Parce que tout le monde pensait qu'il fallait mieux que la Grande-Bretagne soit dans la communauté ou dans l'Union européenne et qu'elle soit dehors. Mais c'est un cas spécial. Heureusement que les autres pays qui, eux, sont de l'Europe continentale ont compris qu'il fallait qu'il y ait une unité de règles et qu'il y ait des dispositions qui s'appliquent à tous de la même manière.
Alors, 7 pays, dont l'Espagne, l'Italie et la Grèce, ont déjà voté en faveur de la Constitution. Est-ce que vous pensez que le oui peut avoir une chance de l'emporter à terme en Europe, Raymond Barre?
Et là, je me garderai bien de toute prévision dans ce domaine.
Alors, Michel Barnier, le ministre des Affaires étrangères, que j'ai cité déjà en début d'émission, a dit combien le non allait changer la donne pour les Français à Bruxelles. De quelle manière, à votre avis, Raymond Barre?
Madame, le non des Français entraîne une perte de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires. Perte de crédibilité du président de la République dans le Conseil européen et dans les conseils internationaux. Perte de crédibilité des ministres qui participent au Conseil des ministres. Et qui n'auront plus la même audience, la même considération lorsqu'ils voudront défendre les intérêts de notre pays. On avait dit que si les Français rejetaient le traité constitutionnel, la France serait isolée. elle ne sera pas totalement isolée, parce que nos partenaires ne souhaitent pas que la France fasse sécession. Mais la France sera manifestement affaiblie.
Raymond Barre, merci d'avoir partagé cette émission post-référendaire avec nous. Si les Français ont statué sur la Constitution européenne, le mystère reste entier pour bon nombre de leurs voisins européens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci aux relations que Taïwan entretient avec la Chine. À bientôt.
Merci.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.